On a retrouvé Agathe. Bonjour, Madame Tupula-Kabola.
Bonjour.
Alors, on écoutait tantôt, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la chanson de Luc de la Rochelière, et je disais que c'est un mystère parce que les personnes bèguent, ne béguaient pas. Quand elles chantent, est-ce que vous avez une raison? Pourquoi donc?
Mais en fait, c'est que quand on chante, c'est une région différente du cerveau qui prend la relève. C'est différent par rapport à quand on parle.
Ça n'a rien à voir.
C'est ça, ce sont des ondes du cerveau qui sont différentes. Donc, c'est pour ça que quand une personne qui bégaye chante, comme ça prend un chemin différent, il n'y a pas de problème au niveau de la sortie des mots en
Très
contexte
bien.
De chant.
Qu'est-ce
Et même
qu'elle...
en contexte par cœur, quand quelqu'un récite quelque chose de
Ah
mémoire,
oui.
là, comme au théâtre, ou il y a même des comédiens qui bégayent qui n'ont aucun problème dans le cadre de leur profession.
Ah, ben c'est encourageant. Alors, donc, le livre « Je bégaye, laissez-moi parler, bien vivre avec le bégaiement », oui, laissez-moi parler, parce que souvent, la personne bègue n'a pas l'air d'apprécier qu'on lui donne le mot quand la personne arrive difficilement à l'émettre. Est-ce que j'ai raison?
Tout à fait, effectivement, parce que les personnes qui bégayent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles savent très bien ce qu'elles veulent dire. C'est pas la pensée qui bloque, elles ne bégayent pas quand elles pensent, c'est vraiment à la sortie. Donc,
Oui.
le plus simple, c'est vraiment de laisser la personne terminer, d'exprimer son idée.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le bégaiement?
Oui, on évalue en fait que c'est environ 10% des enfants qui vont être affectés par le bégaiement durant leur enfance, mais le bégaiement ne va pas persister chez tous les enfants. Chez la population adulte, on n'a qu'un pour cent de la population qui bégaye. Donc, il y a beaucoup de récupération spontanée, c'est-à-dire que il y a des enfants qui vont cesser de bégayer par eux-mêmes sans nécessairement suivre un traitement, mais pour certaines personnes, un traitement en orthophonie sera nécessaire.
Et quelles sont les causes du bégaiement physiologique, physique, psychologique?
Quand on parle du bégaiement développemental, en grande partie, c'est lié à la génétique. C'est transmis par hérédité. Donc, si on a des membres dans la famille qui bégaient ou qui ont déjà bégayé, il y a plus de risques que d'autres membres de la même famille bégaient eux aussi. Et ce qu'on sait, c'est que ça touche beaucoup plus les garçons que les filles.
Ah oui?
Donc, pour une raison obscure, là, on n'a pas encore la réponse exacte au pourquoi, mais il y a environ, c'est ça, 4 fois plus de garçons. Donc, quand on est un garçon, on est plus à risque. Et puis, en fait, souvent, les parents vont remarquer que le bégaiement va commencer à un moment où l'enfant a vécu une émotion particulière. Par exemple, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça peut être la séparation des parents ou un deuil. Ils vont avoir tendance à penser que c'est cet événement-là qui a causé le bégaiement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bégaiement n'est pas causé par des incidents qui amènent des émotions particulières. Par contre, ces événements de la vie-là, qui sont heureux ou malheureux, peuvent précipiter, peuvent rendre évident le bégaiement alors qu'il y avait déjà une prédisposition.
Oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on constate que notre enfant bégaye?
La première chose à faire, je dirais, c'est ben, d'observer comment ça se manifeste, là, le bégaiement. Dans mon livre, je parle beaucoup, là, justement, comment on peut différencier les fluidités qui sont normales de celles qui sont plus typiques de la parole bégayée. Parce qu'il faut comprendre que nous tous, là, enfants ou adultes, on produit des fluidités, c'est-à-dire des hésitations quand on parle.
Ça ne veut pas
Parfois, on
dire qu'on
va...
bégaye.
Non, c'est ça exactement. Donc, parfois, on va répéter des mots comme je viens juste de faire, ou bien on va faire quelques pauses en cherchant un mot ou une idée. Mais quand on parle de moments de bégaiement ou de difficultés plus typiques du bégaiement, on parle surtout soit de blocage comme ça, comme je viens
Ouais,
de
ouais.
reproduire, ou bien des répétitions de parties de mots comme je viens de
Ouais,
faire,
ça c'est
ou
vraiment
encore...
bégayer.
Exactement. Parfois aussi, on va entendre des sons qui s'allongent comme ça. Donc, on va observer si notre enfant s'attend à augmenter en sévérité, parce que si on voit que c'est pire après quelque temps versus au moment de l'apparition, c'est préférable de consulter. Si aussi on a des antécédents familiaux dans la famille, donc des personnes qui bégaient, c'est préférable aussi de ne pas trop attendre avant de consulter. Ou si on observe que notre enfant vit des difficultés au niveau émotionnel en lien avec ça, par exemple, il va se frustrer ou bien il va s'isoler, il va éviter de prendre la parole ou de communiquer, c'est un bon signal d'alarme aussi.
Oui, mais j'imagine que ça enlève la confiance en soi et de l'estime de soi, le fait de bégayer, surtout quand on a un exposé oral qu'on n'a pas appris par cœur à présenter devant nos petits amis, là. Ça doit être, me semble
Tout
qu'on
à
doit être
fait.
habité par un sentiment de honte.
La honte, la peur du jugement des autres, le fait de se juger soi-même aussi, d'avoir peur d'avoir des étiquettes qui nous sont accolées.
Est-ce que dans votre livre, vous proposez des stratégies?
Tout à fait. J'ai un chapitre complet qui aborde les stratégies, autant en milieu scolaire qu'en milieu de garde pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, des stratégies pour tous les adultes qui gravitent autour de l'enfant. Par exemple, comment on fait pour éviter les situations d'intimidation à l'école?
Oui.
Ou comment on s'y prend quand l'enfant est victime d'intimidation, là, quand on n'est plus dans la prévention, malheureusement, mais quand il faut s'attaquer au problème en tant que tel.
Qu'est-ce qu'on
Donc,
fait?
En fait, je parle de plusieurs ouvrages dans mon livre, des livres qui abordent le bégaiement auprès des enfants. Un exemple concret, dans mon livre, je suggère de lire une histoire qui traite du bégaiement en classe pour que les élèves puissent être sensibilisés à cette réalité-là et qu'ils comprennent aussi que le bégaiement, c'est une différence comme une autre. Il y a des élèves qui portent des lunettes, il y en a qui vont avoir une prothèse auditive pour mieux entendre, il y en a qui vont avoir des broches pour avoir des belles dents. Le bégaiement, c'est un problème qui est invisible, on ne le voit pas sur la personne, mais qui peut lui amener des situations de handicap difficiles au niveau de la communication.
Mais est-ce que ça se guérit, le bégaiement?
En fait, si on enlève la récupération spontanée ou naturelle, c'est-à-dire les personnes qui cessent de bégayer par elles-mêmes dans les quelques mois suivant l'apparition du bégaiement, après un certain âge, le bégaiement va rester. Donc, on ne peut pas l'éliminer complètement quand on traite un enfant à partir de l'âge scolaire. À l'âge préscolaire, c'est facile à éliminer et très souvent, le bégaiement ne va pas nécessairement revenir plus tard. Mais quand on traite l'enfant plus vieux ou à l'adolescence ou à l'âge adulte, on ne peut pas l'éliminer. Je ne parle pas de guérir, en fait, parce que le bégaiement, ce n'est pas une maladie.
Non, c'est ça.
Par contre, on peut très bien amener la personne à mieux vivre avec son trouble de la parole, puis à développer des stratégies pour être plus fluide, donc avoir davantage de facilité à s'exprimer au niveau de la fluidité du discours. Puis, on va beaucoup travailler sur la face cachée du bégaiement, donc pas seulement la parole, mais tout ce qui est pensée négative associée au bégaiement,
ouais.
Tout ce qui est la peur que vous avez nommée plus tôt. Parce que souvent, en s'attaquant à cette face cachée du bégaiement-là, ça amène une parole plus fluide.
Et la première personne qu'on doit consulter, est-ce que c'est un médecin ou un orthophoniste quand on constate que son enfant bégaye?
L'orthophoniste, toutefois, si on veut consulter en bas âge, donc ce qui est toujours encouragé, évidemment, pour consulter dans le système public de santé comme au CLSC ou à l'hôpital, il faut d'abord avoir une référence médicale, donc passer par le médecin de famille. Mais si on passe par le secteur privé, alors là, une référence médicale n'est pas nécessaire pour voir un orthophoniste.
D'accord. Et dernière question, Madame Tupoula-Kabola, est-ce qu'il arrive qu'une personne développe un bégaiement plus tard, à l'adolescence ou même adulte?
Ça peut arriver. Alors là, on parle généralement de bégaiement qui est acquis, bégaiement neurogénique. Donc, ça peut être causé, par exemple, par un traumatisme crânien ou par un accident vasculaire cérébral ou un incident qui va amener des modifications là au niveau neurologique.
Bon, alors, ben merci. Vous avez bien répondu à toutes les questions.
Et, ça me fait plaisir.
J'ai parcouru le livre, je l'ai reçu à la fin de la semaine, alors je n'ai pas pu le lire au grand complet, mais tout ce que j'ai lu m'a vraiment passionnée. On apprend plein de choses sur le bégaiement. Je pense que c'est un ouvrage extrêmement complet qui pourra aider les parents et les enfants. Donc, c'est « Je bégaye, point de suspension, laissez-moi parler, viens vivre avec le bégaiement ». C'est écrit par Agathe Tupoula-Kabola et c'est publié aux éditions du CHU Sainte-Justine. Merci Agathe d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Hélène.
Bonne journée.